So I want to start by thanking the organizers for inviting this presentation, which will address the health consequences of female genital mutilation or female genital cutting. So as you're all aware, any form of FGM will cause permanent changes in the female genitalia. The evidence has not indicated that there are any health benefits from FGM. Part of this evidence derives from a review by the WHO published in 2000, which emphasized the obstetric sequela of FGM. Another review was published by Dr. Obermeier in 1999, which was updated in 2005, and concluded that there are several statistically significant associations of FGM with health conditions, and that there were no association with certain other health conditions. But up until a few years ago, there were no systematic reviews, no meta-analyses summarizing the evidence that exists on the association between FGM and health consequences. So my colleagues and I were charged with the task of mapping the range of health consequences of FGM. We were commissioned by the WHO and NORAD to complete a systematic review. We have in the past completed several other systematic reviews looking, for example, at the barriers and facilitators of FGM, looking at the social, psychological, and sexual consequences. We've looked at the effectiveness of interventions to prevent FGM, and one of our last systematic reviews was a realist evaluation, so that may have been part of the reasons why we were contacted by the WHO and NORAD. So we were charged with the task then of completing a systematic review, mapping the full range of the health consequences associated with FGM. And as you're all aware, the consequences of FGM is often emphasized, for example, by organizations trying to stop the practice to continue, such as an organization I was lucky enough to visit, showed here on the pictures, in Ghana. For those of you who are unfamiliar with systematic reviews, a systematic review is completed to synthesize and draw together the range of studies that have been done on one particular question. Most of the time when we do research, we try to do that in order to improve people's conditions somehow, improve their quality of life, or maybe their sexual health, or reduce depression, and what have you. And the answer to such questions are rarely, if ever, answered reliably with one single study. So a synthesis of several studies provide a more valid documentation of one question. And these types of research are used to create more evidence-based decisions used by policymakers, politicians, and so on, to create guidelines, rules, laws, and regulations for groups of people, maybe for nations. There's a number of organizations that complete these kinds of studies. Maybe the most famous of them is the Cochrane Collaboration, which has a seat in the WHO, and the Campbell Collaboration is another global organization, and my organization, the Knowledge Center, is based in Norway, in Oslo. So we set out to complete a systematic review, so synthesizing all the studies that have been done on the question of the health consequences with FGM. In order to find all the studies, we searched 15 electronic databases, searched organizations' websites, we went through a number of reference lists, contacted experts, and asked for any studies they may have heard about. Screening, appraisal of methodological quality of the studies we identified, and data extraction was done independently as well as paired. We attempted to conduct meta-analyses where this was possible, and when it was not, we presented the original data in the studies. We screened a little bit more than 5,000 records. In these 185 studies, there were 3.17 million females included. They came from 42 different countries. 20 of these were from Africa. Those studies that were not set in Africa included women who lived in diaspora typically, but originated from a community in which FGM was common. The females were of different ages, from infants to women into their 70s, but the mean age was 30. Also, all types of FGM were represented, but the most common types were clitoridectomy and excision. And in most cases, the FGM had been done in childhood, usually under the age of 10, and typically by a traditional circumciser. We tried to organize the 185 studies thematically so it would be more manageable. There were a lot of studies that documented the immediate complications, so things that happened during the procedure and the time immediate after the procedure. Then there were delayed types of outcomes that took place years or decades, sometimes after the procedure had taken place, sort of delayed gynecological outcomes. And then there were a number of studies that addressed obstetrical outcomes. So we thematically grouped our studies in these three groups. I'll start with the immediate complications. And before I go into the details, let me just say that there were over 70 different kinds of outcomes presented, so I obviously will not be able to present all of these here, so I'll just mention a few of those. With respect to immediate complications, there were 56 studies. 14 of these were comparative, meaning that women or infants usually, or young children with one type of FGM would be compared to another group of women with another type of FGM, for example, type 1 versus type 3. And there were over 133 females in these studies that detailed immediate complications. We found that the most common immediate complications were urine retention, which more than half of the girls suffered from. Bleeding was also very common, as was swelling, problems with healing, pain, fever, and infections. These were most commonly reported outcomes, but we also found a range of other outcomes reported in these 56 studies, such as shock, anemia, and as you could expect, tissue damage. Three studies, each, all of these from Nigeria, documented death as a direct consequence of the procedure. In these studies, all types of FGM were documented, and the girls didn't just suffer from one complication at the time of procedure and immediately after. There were usually a range of different complications, so there would be pain and bleeding and infection and problems with urination, for example. We also found that there were strong indications of underreporting of complications. For example, there were some studies that said that over 90% of the women who had their lips removed, so excision, experienced no bleeding at all, which is medically unlikely. So with respect to immediate complications, we concluded that the procedure unequivocally does cause immediate complications. Turning to gynecological complications, we had 135 studies within this group. 42 of these were comparative. Most of these compared women with FGM to women who didn't have FGM and then looked at, was there a higher likelihood of outcomes among women who had FGM? And over 130 women were included in these studies. We found a lot of studies that documented burning or painful urination, but a lot of these were not comparative, and there was a lot of heterogeneity in both the PICOs and the methodology, so we were unable to conduct any meta-analyses. But as you can see from some of the best studies here, the Forest Plus shows that there certainly seems to be an increase in risk of burning and painful urination with FGM. Menstrual problems were often also reported. There was a statistically greater likelihood of dysmenorrhea among women with FGM, statistically greater likelihood of irregular menses among women with FGM, and while not statistically significant, you can see there seemed to be an increase in the risk of also difficulty in passing menstrual blood. We were able to meta-analyze a number of studies that looked at HIV infection and STIs. Both of the meta-analyses were statistically non-significant, so showing neither greater harm nor benefit from FGM related to HIV and STIs. So there seems to be no statistically significant association between FGM and HIV and STIs. In contrast, we found that women with FGM had a threefold higher likelihood of experiencing urinary tract infections when they had FGM compared to when they did not have FGM. And similarly, women with FGM had a higher likelihood, an odds ratio of 1.68, of experiencing bacterial vaginosis compared to women who did not have FGM. A number of studies have looked at infertility and childlessness. It was not possible to conduct meta-analyses, but you can see from the forest plots that the results are both on the side of benefit and of harm, seeming to be no really statistically significant association between infertility and FGM. In contrast, a number of studies, all showing a direction of harm from FGM, seem to indicate there is a greater likelihood of experiencing pain during intercourse with FGM. And so with respect to gynecological complications, we concluded that women who have undergone FGM indeed do suffer a greater risk of a range of gynecological complications compared to women who have not undergone the practice. And lastly, I'd like to mention a few of the obstetric complications, so complications that may be experienced during childbirth. We included 44 studies, 28 of these were comparative, with almost 3 million women included. We found that women with FGM had a statistically significant higher likelihood of experiencing prolonged labor compared to women without FGM. Borderline statistically significant, there seems to be an increased likelihood of also experiencing obstetric care, obstetric tears. There is a greater likelihood of experiencing cesarean sections with FGM, and borderline significant seems to be also an increased likelihood of experiencing obstetric hemorrhage. And so also with respect to obstetric complications, there seems to be sufficient evidence to conclude that women who have undergone FGM are at an increased likelihood of experiencing obstetric complications compared to women who have not undergone this practice. We have detailed the results of the health consequences in 3 technical reports. We've summarized the results in a BMJ article. I brought some printouts for you if you're interested in reading them, and you don't want to read the technical reports, and the obstetric complications are detailed in separate articles as well. So based on evidence conducted since the 1920s with over 3 million women included, there seems to be sufficient evidence to claim that FGM does entail harms to women's physical health in a lifetime perspective. So from the time that the female undergoes the practice and throughout her life. We found no indications that there are actually any clear physical health benefits of FGM. We last updated our search in February of 2012, and there have been subsequent reports published which corroborate our findings. And so I think it's fair to conclude that the question of whether there are any physical health harms from FGM has been answered. There's enough evidence to say that there are harms from FGM. I don't think we will learn all that much more about whether there are any harms or not from additional studies. Perhaps it's more important to turn our attention to providing good care and treatment for those who do suffer from complications. And also conduct additional research into the best and most acceptable treatment and care. And I'm really grateful that this conference is being arranged so that we can address this question in greater detail. So I want to thank you for your attention, and I welcome your questions.
Donc en fait, moi, je vais vous parler de l'impact en fait des mutilations féminines génitales sur la santé, et je vais m'intéresser principalement en fait à deux études qui ont été faites par l'OMS, une étude qui a été faite en 2006 et une autre en fait qui a permis notamment d'établir le problème des coûts en fait vis-à-vis de cette pratique, et qui a été menée en fait qui a été publiée en 2010. Et je m'intéresserai aussi à voir de la part de ces études, de voir quels écarts en fait on doit combler à partir des données qui existent, pour étendre aussi le débat par rapport à ce qui a été mentionné lors de la première table ronde sur les déterminants sociaux de la santé. Donc l'objectif aussi, c'est de regarder par rapport aux évidences qui sont disponibles, quelles autres évidences en fait sont nécessaires, notamment comme ça a été présenté donc par la première présentatrice de la table ronde actuelle. On utilise les revues systématiques, et c'est ce qu'on utilise en fait dans notre programme à l'OMS. Il faut savoir qu'il y a deux types en fait de revues systématiques, celles qui sont liées en fait aux essais cliniques, en fait ce qu'on appelle les études RTC. Et récemment, on a aussi essayé de renforcer le fait d'avoir des revues systématiques sur les systèmes de santé, parce que c'est encore on dirait un domaine qui est essentiel de combler. Donc je vais, pour ma part, m'intéresser surtout à l'aspect des systèmes de santé, puisqu'en fait, c'est ma spécialité à l'OMS. Je vous propose de revoir les résultats en fait de ces deux études que je vous ai mentionnées, celle de 2006 en fait, qui a été faite sur donc 6 pays africains. Je vais pas rentrer dans les détails. L'étude aussi de 2010 qui elle s'est intéressée en fait à l'estimation en fait des coûts concernant ce qui a été mentionné sur le fait qu'aujourd'hui c'est une évidence qu'il y a donc un dommage de la pratique de l'excision, et que ça entraîne en fait une augmentation des complications obstétricales. Et donc cette étude en fait de 2010 a été basée en fait sur celle de 2006, et a permis aussi de s'intéresser au même type de pays. Et donc je vais vous présenter aussi les résultats de cette étude, et voir les questions associées en fait à ces deux études. Donc, par rapport aux conclusions en fait de l'étude de l'OMS en 2006, donc quels ont été en fait les impacts sur les pays étudiés? On a vu une augmentation en fait des complications à l'accouchement. Donc quelques chiffres de l'étude: on a vu par exemple 88% d'augmentation d'épisiotomie pour les femmes excisées, comparé en fait aux 41% pour celles qui étaient non excisées. On a pu constater de la part de cette étude une surmortalité des femmes à l'accouchement, donc qui correspondait sur l'échantillon en fait qui avait été pris de environ 23 600 femmes, de 0,61% en comparaison avec celle sans mutilation qui était de 0,13%. L'étude a aussi démontré une surmortalité des enfants à la naissance, donc une augmentation par comparaison avec celles qui n'étaient pas mutilées, d'une augmentation de 14 décès en fait supplémentaires par rapport aux femmes qui avaient subi des mutilations, et également une augmentation des effets secondaires, comme ça a été mentionné en fait par la première présentatrice, à savoir donc des douleurs violentes, des hémorragies, mais aussi des infections, et puis donc particulièrement des kystes, des abcès, des problèmes d'incontinence, ça a été mentionné, et aussi des problèmes au niveau psychologique. Donc au niveau des autres conclusions, on peut donc dire que les mutilations génitales féminines donc sont pratiquées selon l'origine ethnique et sociale, donc, et ça c'est vraiment relié aussi au niveau éducatif, donc ça c'est ce que montre l'étude. Que cette pratique, et ça, ça a été aussi exposé dans la table ronde, la première table ronde, que ça concerne de nombreux groupes religieux et que c'est donc multi-ethnique. Donc ça concerne aussi bien, par exemple, les musulmanes, les chrétiens ou les animistes. Donc c'est très diversifié. Et que, donc, on peut considérer aussi que, et ça, ça a été aussi mentionné, que ce n'est pas qu'en Afrique, mais que ça s'applique aussi à d'autres régions du monde. Donc, en termes de chiffres, par rapport aux chiffres qui ont été mentionnés aujourd'hui, si on s'intéresse, en fait, au nombre de femmes excisées dans l'étude de 2006, qui était de 21 222, femmes dans les 6 pays concernés, ça représentait à l'époque, puisqu'en fait, si on reprend le chiffre total, donc de 125 millions à l'époque, ça représente, donc au niveau de l'échantillon qui a été pris, 0,017%. Donc, est-ce que c'est significatif ou pas ? Donc c'est quand même très cette étude est relativement limitée par rapport bien sûr au nombre de femmes totales à la même époque. Donc j'ai reporté aussi là le nombre de femmes de l'étude qui était de 54. Par rapport donc aussi aux autres conclusions, on peut voir qu'il y a un impact significatif en fait de l'éducation sur les femmes. Donc l'étude de 2006 en fait milite pour le renforcement significatif de l'éducation des femmes et montre que plus elles sont en fait éduquées, plus elles seront en mesure de réaliser les conséquences de ces pratiques, donc pour leur santé, et d'abandonner l'excision, en mesure d'avoir accès à des soins de qualité. Du fait qu'elle soit donc éduquée et donc qu'elle considère ces informations comme importantes pour pouvoir se rendre dans un centre de soins. Donc là, c'est vrai qu'on a une augmentation de l'accès, par exemple, au centre de soins, qu'elle soit excisée ou pas. Et donc que l'impact médical de l'excision, en fait, bien sûr, dans ces cas-là, sera moins sévère. On estime en fait que le coût annuel de ces complications liées donc au MGF dans les 6 pays étudiés comme celle de l'étude de 2006 donc correspond à 3,7 millions. Donc ce coût, ça correspond environ à 0,1 voire 1% des dépenses du gouvernement donc pour la santé des femmes âgées de 15 à 45 ans uniquement dans ces 6 pays. Et donc dans la population actuelle de 2,8 millions de femmes de 15 ans dans les 6 pays africains, donc on s'attend à une perte de 130 000 ans de vie à cause des hémorragies obstétriques liées aux mutilations génitales. Donc ça correspond en fait à l'équivalent de la perte de la moitié d'un mois de chaque durée de la vie de ces femmes. Donc ça, c'est pour les impacts en fait concernant le coût des complications obstétricales. Donc l'idée, c'était de voir aussi les limites en fait par rapport aux études existantes pour généraliser des résultats comme ceci. Donc par rapport aux limites, on peut s'interroger sur les spécificités par pays. Donc peut-on l'extrapoler sur tous les autres pays africains, sachant qu'il peut y avoir des différences dans la qualité des systèmes de soins, voire de pratiques de l'excision. La qualité des systèmes de santé aujourd'hui a évolué aussi depuis 2006. Et donc la question sous-jacente, c'est est-ce que les taux de mortalité à la naissance, donc avec ou sans excision, n'ont pas changé aussi de manière significative ? Donc là, on n'a pas de données. Et je pense que dans les limites, il est important, ça a été mentionné aussi dans la première table ronde, le problème démographique. Donc en fait, on devrait prendre aussi en considération les dynamiques démographiques qui sont très différentes suivant les pays et qui peuvent malheureusement maintenir en fait un taux de prévalence élevé. Comme l'a montré l'étude, donc les dynamiques éducatives, l'éducation des mères, donc on a vu un impact significatif non seulement sur la pratique de l'excision, mais également sur l'accès donc à des soins de qualité, au fait qu'elle va se rendre justement à un centre de santé. Et donc la question, c'est est-ce qu'en 2006 et 2014, le niveau éducatif des mères a évolué vraiment de manière significative ? Donc ça, c'est des données qu'on n'a pas actuellement. Il a été mentionné aussi la problématique des déterminants sociaux de la santé. Donc ça, c'est très important si on considère en fait une problématique dans son ensemble, c'est-à-dire par rapport au système de santé. Et donc là, par rapport aux déterminants sociaux, l'accès aux ressources de première nécessité qui permettent un mode de vie décent. Donc, comment ces déterminants influencent directement ou indirectement cette problématique, et notamment une référence à la pyramide de Maslow concernant le fait que une femme qui n'a pas accès donc au premier aux premiers éléments d'un mode de vie décent ne pourra pas penser même à revoir en fait ce genre de pratique. D'autres limites en fait, c'est l'idée, ce serait d'établir en fait plus de comparaisons. Donc effectivement, les revues systématiques permettent ces comparaisons. Donc on pourrait imaginer de comparer en fait les pays à revenus intermédiaires avec ces pays africains, par exemple de l'étude de 2006, comme l'Égypte, qui a amélioré nettement son système de santé en fait et qui a un niveau assez assez important en termes de bonne prise en charge en fait des malades. Et puis, on pourrait aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas comparer l'impact de l'excision donc, dans d'autres pays subsahariens éventuellement, notamment avec d'autres, entre pays anglophones et pays francophones. En termes de comparaison, donc là, il y a eu effectivement une présentation de l'Europe avec ce matin avec la problématique du... d'avoir accès aux données et aux évidences en fait pour l'Europe, mais ça serait peut-être aussi intéressant de comparer avec les pays européens qui disposent eux d'un service de soins de qualité. Donc là, on pourrait voir par exemple une incidence par rapport au taux de mortalité qui seront donc plus faibles, mais on pourra aussi identifier peut-être en comparant avec ces pays d'autres conséquences qui pourraient persister en fait par rapport à la problématique. Donc au sein de notre programme en fait, on a mis en place un forum en fait de discussion sur les différentes problématiques de santé, et donc ce mois-ci, comme on savait qu'il y avait cette première consultation sur l'excision, on a décidé d'avoir un débat en fait avec 800 membres en fait qui sont actuellement dans le réseau, qui sont principalement des décideurs, des chercheurs et des représentants de la société civile, et qui concernent 36 pays francophones, pour discuter en fait de cette problématique de l'excision, qui s'appelle donc IFAI VIPNET, et les idées qui sont ressorties en fait à la suite de ces échanges, c'est que donc en fait, on a des trajectoires très différenciées suivant les pays. Il y a, et donc les acteurs en fait qui ont participé ont des doutes sur la possibilité de mettre fin à l'excision en une génération, comme ça avait été proposé par M. Ban Ki-moon des Nations Unies, donc qui va aussi avec la présentation de Mme Kappa en fait sur le fait que c'est très difficile de pouvoir faire des projections et d'avoir les tendances fiables, puisqu'il y a un problème en termes de données. Et puis, il y a donc ce problème aussi de démographie. Donc les autres points forts de ces échanges, en fait, ça a été d'avoir un risque d'avoir plus de victimes donc sur les prochaines années sur certains pays du fait donc de cette dynamique démographique encore plus forte que la baisse en fait régulière de la prévalence. Donc aussi de regarder, comme ça je l'ai mentionné tout à l'heure, les différences entre pays francophones et anglophones. Et pouvoir aussi étudier ces dynamiques en fait éducatives, notamment pour les pays anglophones, puisqu'on a vu, et ça a été mentionné par Madame Kappa, que notamment le Kenya, en fait, il y a une baisse significative en fait de la prévalence. Donc, on sait qu'au niveau du Kenya, il y a un bon système en fait éducatif aussi. Donc, quelle est l'influence en fait de ce type d'éducation sur l'arrêt en fait de ce genre de pratique. Donc aujourd'hui, c'est effectivement une question qui reste entière. Et puis donc le fait que et ça a été aussi mentionné, on a un problème de base factuelle, et notamment le problème de base factuelle sur les impacts socio-économiques, et notamment par rapport au système de santé dans son ensemble. Donc l'autre problème aussi, c'est le manque de ces bases factuelles par rapport à l'étude en fait des déterminants sociaux de la santé. Quel effet en fait chaque déterminant a sur la problématique de l'excision? Et donc, par rapport à, en fait, à ces échanges de ce mois-ci, de cette semaine sur l'excision, il est apparu important d'amener particulièrement un focus sur l'éducation. Si l'impact est dans la santé est constaté par les praticiens qui demandent à bannir en fait, la pratique, la solution semble davantage être à trouver du côté donc du milieu éducatif vis-à-vis des pays où la prévalence est en baisse, comme par exemple le Kenya. Il y a d'autres pays africains, notamment il a été mentionné le Burkina Faso également. Donc il faut confirmer donc l'impact de l'éducation dans la chute de la pratique sur le plan national et régional. Il faudrait aussi renforcer en fait le plaidoyer sur l'accès à l'éducation auprès de l'ensemble des acteurs impliqués. Identifier en fait les freins à l'éducation pour tous, parce que ça reste encore un problème, notamment, bien sûr, on le sait, au niveau des femmes, qui n'ont, dans certains pays, toujours pas accès à l'éducation. Et puis impliquer aussi les gens du ministère de l'Éducation dans l'abandon de l'excision. Et je suis un peu étonnée de ne pas voir les gens de l'UNESCO, en fait, lors de la conférence. J'aurais bien voulu avoir leur point de vue également. Puis donc je ferai un rappel en fait des déterminants sociaux de la santé rapidement. Donc selon l'OMS, le fait que les déterminants structurels et les conditions de vie au quotidien constituent les déterminants sociaux de la santé, qui sont à l'origine d'une grande part des inégalités en santé observées entre pays et dans les pays, comme l'accès aux soins, la scolarisation et l'éducation, les conditions de travail, les loisirs, l'habitat, la communauté et un environnement de vie aussi épanouissant, qui sont les piliers en fait pour pouvoir penser même à abandonner une pratique culturelle. Donc je vais reprendre juste quelques principes en fait de la commission de l'OMS en fait qui a travaillé sur les déterminants sociaux de la santé. Donc, qui sont d'améliorer les conditions de vie quotidienne, c'est-à-dire les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent. Donc, comment prendre en considération ces principes, notamment vis-à-vis des acteurs de tout l'ensemble des acteurs qui travaillent sur le sujet. La lutte contre les inégalités, ça, j'ai pas entendu parler des inégalités, en fait, mais c'est quand même le sujet en ce moment majeur, hein, les inégalités sociales. Donc, inégalité sociale, quel impact sur l'excision? Donc, et là, lutter contre les inégalités, on le sait très bien, dans la problématique de la répartition en fait des ressources, donc du pouvoir, de l'argent et de l'ensemble en fait de ces ressources qui sont l'accès à l'eau potable, la nourriture, etc. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc mesurer le problème, l'analyser, évaluer l'efficacité de l'action. Donc moi, j'ai pas encore vu vraiment aujourd'hui quelles étaient les méthodes en termes de suivi, si vous voulez, d'évaluation, hein, monitoring and evaluation méthode. Qu'est-ce qui est aujourd'hui utilisé dans le domaine? Et donc la conclusion qu'on peut dire par rapport à ces études qui sont disponibles, c'est qu'on a des évidences par rapport donc à l'impact très négatif sur le plan qualitatif, mais qu'on n'a pas assez de données spécifiques par pays à jour pour évaluer l'impact global sur l'ensemble des pays. Qu'il faut poursuivre les efforts de sensibilisation de manière transversale et pas uniquement verticale. Qu'il faut mettre davantage l'accent en fait sur les déterminants sociaux de la santé. Donc par rapport aux actions qu'on pourrait proposer en fait pour baisser le taux de prévalence, on peut donc mentionner des actions spécifiques comme donc les actions de sensibilisation ciblée. Ça, ça a été aussi mentionné par rapport à l'implication des communautés, une approche inclusive avec aussi les praticiens, les responsables traditionnels et religieux, mais aussi le grand public. Et puis une action spécifique sur les déterminants sociaux par des politiques en fait éducatives pour abaisser le taux d'analphabétisme, en particulier des femmes, mais aussi par des politiques de réduction des inégalités en vue d'un meilleur accès aux services éducatifs et de santé, sachant que souvent pour certains de ces pays, la santé et l'éducation ne sont pas la priorité en termes budgétaires. Et donc on a un problème aussi de ressources financières. Donc les actions envisagées aussi pour baisser l'impact des conséquences obstétriques, on peut imaginer l'amélioration des systèmes de soins, de base, de renforcer l'accessibilité aux services de santé avec une diminution des accouchements à domicile pour limiter les risques obstétriques, par exemple. Voilà, merci beaucoup.